au 01 45 24 7000 avec des appels pour vous. Didier Lecoing, Michel qui nous appelle de Bretagne. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Merci de prendre ma question. Je suis écrivain, modestement moi-même. J'ai sorti un roman l'année dernière au Castor Astral, qui s'appelle Le poisson pourri par la tête. Et je me posais la question de la part de la littérature dans les revenus de votre invité. Parce qu'il n'y a pas de système d'intermittence pour les écrivains. La majeure partie des écrivains que j'ai pu rencontrer quand je faisais la promotion de ce roman ont ce qu'on appelle un second métier. Et je me demandais quelle était la part de ces revenus. Est-ce que la littérature en tant que telle lui permet de vivre ou uniquement les adaptations pour le milieu audiovisuel?
Merci Michel pour cette question très prosaïque.
Mais Michel, c'est même pas un second métier dont il faut parler, c'est un premier métier, et puis la littérature c'est la danseuse. Ouais. Mais c'est vrai que hormis Musso, Lévy et puis deux trois autres, vivre de sa plume est un défi.
Il y a si peu d'écrivains qui peuvent vivre de leurs écrits.
Il y en a peut-être 10-12 qui vivent. Alors ça dépend ce que vous appelez vivre. Il y en a qui survivent dans leurs écrits. Ouais. Mais mais remarquez, c'est pas nouveau, parce que rappelez-vous, Claudel, il était ambassadeur, beaucoup d'écrivains ont été enseignants, ont été journalistes. Écrire, d'abord, parce que écrire, on ne sait pas quand on va écrire, on ne sait pas quand on va publier, on ne sait pas si les gens vont avoir envie d'acheter le livre. Donc c'est tellement aléatoire qu'il faut avoir... Moi, je trouve que quand quelqu'un vient me trouver, un jeune, en disant « je veux devenir écrivain », je lui dis « oui, quel est votre métier ?» Il faut avoir un métier de boulanger qui vous rapporte le pain. Donc Michel, vous avez raison, si vous avez un second métier, gardez-le.
Quel second métier vous conseillez pour les gens? Parce qu'il faut réussir à écrire quand on est enseignant et qu'on rentre, par exemple, après 28 heures de cours, on peut avoir du mal à avoir la disponibilité pour écrire.
Vous savez, mon père en écriture, qui était l'écrivain Jean Cayrol, me disait, il faut voler le temps de l'écriture. Enfin, si vous avez tout d'un coup, si vous êtes à la retraite et que vous avez devant vous cette immense plage de vide, vous dites, ah, c'est merveilleux, j'ai pouvoir écrire toute la journée, vous allez faire de la sous-littérature. Il faut se battre pour écrire. Il faut souffrir. Mais vraiment, il faut s'écorcher pour écrire. Donc, si vous n'avez qu'une heure par jour pour écrire et que cette heure, même on vous la grignote, c'est très bien. C'est comme ça que vous ferez un chef-d'œuvre.
Bernard Guetta,
Balzac, Hugo, Dumas vivaient de leur plume. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vivait mieux de sa plume au 19e qu'aujourd'hui?
Vous en citez quatre.
Oui, c'est vrai.
C'est pas beaucoup. On en vivait mieux parce que ils écrivaient des feuilletons, comme nous on écrit des séries pour la télévision.
Allez-y, voilà. Hein,
c'est la même chose.
Voilà,
mais bon, c'était des rez-de-chaussée des journaux, mais ils n'étaient pas très très nombreux à vivre de leur plume.
C'est vrai.
Alors, je dois vous dire que France Inter et le Journal du Dimanche ont créé un prix du livre étranger. Le nom du lauréat sera dévoilé le vendredi 20 janvier dans cette matinale et sera choisi parmi 5 titres étrangers. Il y a Les Furies de Lauren Groff, La Terre qui les sépare de Hachim Mattar, New York Odyssée de Christopher Jansma, Si rude soit le début de Javier Marias et La part inventée de Rodrigo Fresan. Le JDD et France Inter qui ont choisi pour cette rentrée de janvier 5 livres français, 40 ans de Marc Lambron chez Grasset, Joie de Clara Magnani chez Sabine Vespizer, Face aux Styx de Dimitri Bortnikov chez Rivage, qui était l'invité d'Augustin Trapenard lundi dernier, et puis le déjà très commenté article 353 du Code pénal de Tanguy Viel, je n'oublie pas évidemment le bureau des jardins et des étangs de Didier Decoing chez Stock, qui est notre invité ce matin. Ilana Morioux Youssef, qui suit les questions littéraires et qui lit des livres pour la rédaction de France Inter, est avec nous. Ilana, vous nous avez rejoint.
Oui, Didier Decoing, vous dites que pour ce livre, vous vous êtes inspiré des écrits des dames de cour du Japon médiéval. Or, toutes faisaient partie de l'aristocratie et votre héroïne, elle n'est personne en fait. Elle est une veuve très pauvre, de pêcheur, et vos romans, souvent, prennent pour héros, héroïnes, des personnages qui sont très très bas dans l'échelle sociale. Pourquoi ?
Je pense que c'est parce que mon mon père que j'ai adoré, hein, qui est l'homme qui a le plus compté dans ma vie.
Henri de Coin, le cinéaste, ouais. Razzia sur la Schnouf, La Vérité sur Bébé Donge.
84 films. Ouais. Et qui a fini comme une sorte de roi du cinéma, hein. Était parti tellement bas.
C'est un journaliste sportif au départ.
Au départ, c'était le milieu déjà, parce que au départ, c'était rien du tout. C'était, il est papa, c'était le quart monde. Et comme il disait, s'il y a quelque chose en dessous du quart monde. Donc, ça, c'était lui. Cette réussite m'avait fasciné. Partir de rien et devenir ce qu'il était. Et surtout un jour, à la salle Wagram, il m'emmène voir un match de boxe parce que justement, le journaliste sportif était fasciné par la boxe. Mmh. Et il y a un type qui se fait descendre au troisième round, KO, complètement étalé par terre, etc. Et l'autre boxeur, vous savez, les bras en l'air, waouh, j'ai gagné à moi. Et moi, je me lève et j'applaudis comme un fou le vainqueur. Et papa me fait rasseoir avec. Mais assieds-toi, mais tu es complètement fou, qu'est-ce que tu fais? Il a gagné, il est formidable. C'est pas lui qu'il faut applaudir, c'est celui qui est par terre. Parce que tu vas voir, il va se relever, et il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui se relève. Et ça, c'est resté pour moi une leçon de vie majeure. Et c'est peut-être le leitmotiv, quand j'écris, j'ai besoin d'avoir des personnages qui sont par terre, d'abord. Et ce qui m'intéresse, c'est leur mouvement de relèvement.
Mais dans cette société extrêmement hiérarchisée, le Japon médiéval, on a le sentiment, en vous lisant, qu'on peut faire un rapport, un lien avec la société d'aujourd'hui,
oui.
Extrêmement bloquée. Parce que votre héroïne, à la fin, à son insu, elle arrive à subvertir l'ordre social.
Oui, c'était le but du jeu. Je voulais mettre une petite bombe au milieu de ce monde de raffinement, etc. Elle a une particularité, Miyuki, c'est que comme elle a traversé, elle fait 400 kilomètres avec des sandales de paille, elle s'est jamais lavée parce que ça fait pas partie de son rituel, elle dégage une odeur sui generis qui est choquante pour les gens de la cour impériale, qui eux sont dans ce monde de parfums, d'encens qu'on brûle, etc. Et je voulais voir ce que ça allait donner, ça, de mettre le ferment diabolique, hein, c'est pas dans l'angélisme, pseudo-angélisme de la cour impériale. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est Cosette, prise par la main par Jean Valjean, et qui va devenir la femme de Marius, et une petite femme du monde. Moi, j'aime ça.
Vous aimez les héroïnes aussi.
J'adore les héroïnes, oui, évidemment.
Et alors, Miyuki, particulièrement.
Mais Miyuki, parce qu'elle est faible, parce qu'elle est fragile, parce que comme Ileana, elle sait à peine parler, elle comprend rien à rien, mais en même temps, elle sait une chose, c'est que pour sauver son village, elle doit apporter 8 carpes à la cour impériale, faire 400 kilomètres pour ça. Et alors, elle a l'impression, et c'est ça qui me touche chez elle, son mari est mort, c'est pour ça qu'on lui demande à elle de porter les carpes, il s'est noyé dans la rivière, elle a l'impression qu'il fait le voyage avec elle, qu'il est à côté d'elle, comme une espèce d'hologramme ou de fantôme. Et quel que soit l'acte qu'elle entreprend, c'est toujours par référence à ce mari qu'elle a adoré, qui est le seul homme de sa vie, qu'il a épousé par intrusion, comme on disait tout à l'heure. Et le fait de cette jeune veuve qui continue d'aimer son mari comme s'il était vivant, ça me touche beaucoup. Vous allez dire, mais c'est vous qui l'avez inventé, c'est normal. Bon, mais pour moi, Miyuki, après 12 ans, elle existe presque d'une manière autonome. J'ai l'impression qu'elle est vraie.
Je voudrais vous amener, Didier Lecoin, sur un personnage que vous n'avez pas inventé, qui fait partie d'une légende, mais qu'on trouve... Enfin, moi, j'ai découvert cette histoire dans le dictionnaire amoureux des faits divers, sont les Ravalet, Julien et Marguerite.
Ah ouais.
Et Marguerite de Ravalet, les frères et sœurs qui ont été exécutés en place de grève pour inceste. Histoire qu'avait... François Truffaut avait essayé de s'y frotter. Hein, Jean Gruau avait écrit un scénario. Et puis, ça a été adapté au cinéma par... Valérie Donzelli.
Oui, qui en a fait une version qui est peut-être... Je comprends ce qu'elle a fait, Valérie Donzelli. Elle a eu peur de l'histoire avec un grand H. Elle a dit, je vais m'en extraire pour être un tout petit peu plus contemporaine.
Mais dites-nous en quelques mots cette histoire des Ravalet.
C'est tout simplement dans un château à côté de Cherbourg. Un frère et une sœur. Elle est totalement ravissante. On a dit que c'était la plus jolie femme de son temps. Elle est bébé, hein, elle a 14-15 ans. Et lui, Julien, est un tout petit peu plus âgé qu'elle, et il est aussi beau comme un dieu. Et ces deux-là, ils s'ennuient, n'ont rien... L'ennui, vous savez, c'est souvent un moteur formidable de drame ou de choses. Ils s'ennuient, et donc, ils finissent par échanger des caresses, par échanger des mots doux. Et puis, comme ils ont la même chambre, ben, ils finissent par passer dans le même lit, et puis par avoir une relation sexuelle. Mais pour eux, ils y voient pas de mal, ils s'aiment. Ils sont frères et sœurs, il y a pas de mal à se faire du bien, c'est ce qu'ils pensent. évidemment, la famille ne l'accepte pas, donc on va marier Marguerite de Ravalet.
On est en 1600, hein,
oui.
17e siècle.
Ouais. Oui, on est loin.
Hein. Oui, on est loin.
On la marie à un homme qui est un horrible, un affreux barbon, qui va être d'une méchanceté envers elle terrible, et ils vont être finalement, Julien et Marguerite vont fuir à Paris, ils vont être repris par la police du roi, condamnés à mort, et là, il y a cette chose qui est quand même inouïe, c'est que toute la France, en tout cas Paris, de l'époque, a supplié, imploré le roi de leur faire grâce, tellement elle était jolie. Je trouve très beau que tout un peuple de Parisiens...
Il a fait grâce ou pas?
Non.
Parce que sa mère, la Médicis, lui a dit « Tu ne peux pas te montrer faible ». C'est pas parce qu'elle est jolie qu'il faut l'épargner. Or, moi, c'est ça ma politique, c'est parce qu'elle est jolie qu'il fallait évidemment l'épargner.
Raison majeure.
Eh ben oui. Parce que, je veux dire, massacrer cette fleur. Alors, elle avait en plus, elle était, c'est adorable, pour mourir, quand on lui a dit, mademoiselle, il va falloir y aller, elle a demandé à pouvoir s'habiller et elle a choisi une robe. C'était ravissant. Elle ne sait pas, elle n'a pas eu une seule faute de goût. Même les gants étaient de la couleur qu'il fallait. S'il y avait du sang, on lui a coupé la tête avec une épée. Et les religieuses d'un couvent, on devait les mettre à la fosse commune comme des véritables criminels. Et des religieuses d'un couvent proche ont demandé à récupérer les corps et à les ensevelir parce que elles, ces religieuses, avaient pardonné.
Histoire extraordinaire, on en découvre beaucoup d'autres aussi dans ce dictionnaire amoureux des faits divers. Vous voyez, les faits divers, c'est très large dans acception, Didier Decoin, de l'Académie Goncourt. Je dis de l'Académie Goncourt parce que voilà, ça fait 20 ans maintenant que vous y êtes.
Oui, 22
ans, donc vous lisez beaucoup, j'imagine, grand lecteur, hein, énormément, c'est votre
c'est votre fonction. Lu, hein.
Et
j'ai toujours lu.
Comment vous voyez... Qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Comment vous voyez évoluer la littérature? Ce qui vous passe entre les mains? Ça évolue plutôt bien, plutôt...
Je la trouve un tout petit peu timorée. Je veux dire, c'est une littérature. La littérature française, elle se regarde quand même beaucoup de nombril. Donc, si on se réveille le matin, on regarde comment on a dormi, comment va la jeune femme qui dort à côté de vous, ou l'amant qui dort à côté de vous.
Donc l'autofiction, ça vous plaît pas beaucoup?
Oh, pas du tout. Non, moi pas du tout. Mais là, elle souffre, la littérature, du syndrome Angot. Je veux dire, Christine Angot a mis au point un genre littéraire. Tout le monde s'est engouffré derrière. Moi, c'est pas la littérature que j'aime. Bah, elle a ses qualités, cette littérature-là. Moi, j'aime les fenêtres ouvertes, j'aime le vent, j'aime les voiliers au large. La littérature, faut qu'elle me fasse voyager, faut qu'elle m'entraîne, qu'elle me fasse rêver.
Et le romanesque, donc.
Et le romanesque.
Évidemment, le Bureau des jardins et des étangs. Chez Stock, vivement recommandé. Évidemment, ici à France Inter, je vous présente Augustin. Enfin, c'est pas la peine de le présenter. Augustin Trapenard. Bonjour, Augustin.
Salut, Patrick.
Vous avez une question pour Didier Decoin?
Oui, bonjour, Didier Decoin. On l'a dit, il y a 40 ans, vous avez été récompensé par le prix Goncourt pour John l'Enfer. Vous aviez 32 ans. Et cette année, vous faites paraître un livre en même temps que l'un de vos enfants, qui a à peu près cet âge-là. Oui. Julien Decoin, qui publie un très beau deuxième roman. Je le dis parce que c'est vraiment un beau livre qui s'appelle Soudain le Large, aux éditions du Seuil. Je vais pas vous demander ce que vous en avez pensé de ce livre.
Chose que vous, c'est un très très beau
livre.
Mais
puisqu'il est toujours question de transmission dans l'acte romanesque, et vous l'avez dit ce matin, quelle émotion est-ce que c'est pour vous de le voir apparaître comme ça et rester, puisque c'est son deuxième livre?
Oui, mais c'est important parce que c'est le deuxième. Parce que le premier livre, comme souvent un premier roman, c'était un livre inévitable. J'avais besoin de faire une catharsis, il l'a écrit. Et c'est un livre très émouvant qu'il a écrit, le premier, sur un drame personnel qui lui est arrivé. Et ma question, c'était, est-ce qu'il en écrira un jour un deuxième? Et c'est un cadeau pour moi qu'il l'ait fait. Et qu'il ait écrit un livre qui est une comédie, car soudain, le large, ça pourrait être mis en scène par Dubitsch ou Capra, s'ils étaient encore de ce monde. C'est drôle, c'est adorable, c'est un très joli couple, Catherine et Charles. Elle tombe dans le port de Cherbourg, il la sort de l'eau, et puis c'est pas quoi en faire, mais il y a un voilier qui est là à quai, amarré. Alors il l'emmène sur le voilier, il lui fait croire que c'est son bateau à lui. Alors elle le croit, bien entendu, une sorte de capitaine Troy merveilleux, et de là va partir une aventure hallucinante. Et c'est raconté avec une bonne humeur, un enthousiasme. Ah, il m'a fait un beau cadeau.